au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 24 février, j'espère que vous avez passé une belle journée sous le soleil, là, mais ça demeure quand même pas mal frisquet sur la Naudière, là. Moins 9 actuellement au cœur de la Naudière. À l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante, on va faire un retour sur les élections partielles là, du côté de Rimouski, élection d'hier qui a élu le Parti québécois. Retour du Parti québécois dans Rimouski, mais une performance très intéressante pour les conservateurs d'Éric Duhaime. On va parler aussi avec Isabelle Perrault, préfet de la MRC de Matawinie. Il sera question d'éducation. Également à l'émission, Claude Lavallée, présidente de l'AFIC Lanaudière. Il y aurait, semble-t-il, encore du temps supplémentaire obligatoire dans le réseau de la santé. Mais tout d'abord, les libéraux de Mark Carney qui se rapprochent d'une majorité. Les dernières projections de QC125 montrent que les conservateurs ne cessent de reculer depuis le vote de confiance de Pierre Poilievre. Et Pierre Jubinville s'entretient là-dessus avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger.
Alors, Mathieu Bélanger, Mark Carney consolide sa position sondage après sondage. Le dernier en liste donnerait même une majorité aux libéraux.
Oui, ça, les sondages sont assez clairs là-dessus. On sait que c'est toujours plus difficile pour le Parti conservateur du Canada de gagner les élections, puisque leurs appuis sont plus concentrés dans l'Ouest canadien, en Alberta, en Saskatchewan, par exemple. Et donc, ils ont besoin de plus d'appui que les libéraux pour remporter. Et avec les sondages qu'on a depuis les dernières semaines, par exemple, notamment avec le discours que Mark Carney a fait à Davos, ben ça donne une bonne avance au Parti libéral du Canada. Dans certains sondages, là, c'est même un écart significatif là, de 7, de 10 points selon les firmes de sondage d'avance pour les libéraux, notamment justement le dernier liaison stratégique, c'était 12 points. Le dernier Lanos, c'était 7 points. Donc, ça varie. Ce sont les firmes de sondage, selon le moment, selon la méthodologie également. Mais dans tous les cas, ça donnerait si on transposait tout simplement ces résultats-là, une victoire aux libéraux. Une victoire fragile quand même, victoire, mais majorité fragile, je devrais plutôt dire, où on serait là à quelques, selon les différents simulateurs, là, juste à quelques députés de plus de la majorité, puis on sait qu'en campagne électorale, les choses peuvent beaucoup bouger, donc ça pourrait basculer d'un sens à l'autre, mais c'est sûr que ça alimente la réflexion des stratèges libéraux, à savoir s'ils vont en élection ou pas générale, si on déclenche l'élection générale ou pas. Cela dit, donc une voie pour avoir la majorité, c'est des élections. De l'autre côté, ben il y a une autre voie qui est de réussir à construire une majorité à partir du contexte actuel. On a vu des trois députés quand même à date conservateurs depuis les dernières élections qui ont traversé la Chambre pour joindre les libéraux. Puis les élections partielles aussi qui s'en viennent, qui pourraient donner une majorité justement au Parti libéral du Canada.
Justement, Mark Carney doit être tenté d'obtenir sa majorité à tout prix, mais d'après vous, quelle sera la voie qu'il empruntera, des partielles ou une générale?
Seul lui le sait, s'il le sait. Il semble, mais le terme « semble » est important ici, se diriger vers attendre les partiels et recruter des gens. Présentement, au moment où on se parle, il manque 3 députés pour être majoritaire. Et présentement, il y a des élections partielles prévues, officielles, dans 3 circonscriptions. 2 dans la région de Toronto qui sont assez assurées pour les libéraux, si on se fie à la tendance habituelle, puis en plus que là, les sondages sont positifs pour les libéraux. La 3e circonscription, c'est Terrebonne. Et là, dans Terrebonne, c'était excessivement aux dernières élections. Ça a fini quand on considère le jugement de la Cour suprême d'il y a une semaine ou deux en inégalité, ce qui explique qu'on retourne en élection maintenant. D'après les sites de projection, on aurait peut-être une petite avance pour les libéraux, pour le Bloc québécois, mais ça demeure excessivement serré. Ça pourrait facilement basculer d'un côté ou de l'autre. Il y a aussi, dans la circonscription de Rosemont, il y a des fortes rumeurs qui envoient Alexandre Boulris démissionner pour présenter sa candidature au niveau provincial pour Québec solidaire. Mais s'il annonçait effectivement sa démission au courant des prochaines semaines, des prochains mois, bien, ça pourrait être une circonscription potentiellement prenable pour les libéraux. Tout ça pourrait permettre aux libéraux d'être majoritaires comme ça, mais une majorité très serrée. Et ça, c'est l'autre question. Au-delà d'être majoritaire, est-ce que Mark Carney va se contenter d'être de justesse ou à un député d'une majorité, mais ce qui donne encore un pouvoir immense à chacun des députés individuellement? Il faut que tout le monde soit là, tout le monde va du bon bord. Et ça se pourrait que des députés, même libéraux, fassent des pressions pour obtenir des choses qu'ils veulent en contrepartie de leur vote ou aller en élection générale, possiblement obtenir une majorité plus confortable, ce qui est plus intéressant pour un chef de parti puis un premier ministre, mais avec le risque aussi de peut-être ne plus d'être encore gouvernement minoritaire, peut-être même plus serré que présentement, voire perdre le pouvoir. Tout ça, c'est des risques. Tout ça, c'est des calculs que clairement les stratèges libéraux auxquels ils réfléchissent présentement. Puis on aura la conclusion bientôt de tout ça s'il y a des élections partielles qui sont déclenchées rapidement ou pas. C'est probablement parce que ça va être alimenté par cette réflexion-là.
On sait déjà dans Terrebonne que Tatiana Auguste est sur le terrain. Même Mark Carney y est allé la semaine dernière. On se demande aujourd'hui ce qu'attend le Bloc pour sauter dans l'arène.
On attend clairement une décision de Nathalie Sinclair-Desgagné, la députée défaite du Bloc québécois et candidate, donc ancienne députée et candidate aux dernières élections, celle qui a mené la cause devant une décision de la Cour suprême. Elle-même a dit qu'elle est en réflexion, ça se peut qu'elle y aille, qu'elle y aille pas. Clairement, le Bloc québécois attend ça. On voit mal le leadership du Bloc québécois tasser Mme Nathalie Sinclair-Desgagné pour proposer quelqu'un d'autre dans le contexte actuel, justement de la cause qui a été menée devant la Cour jusqu'à la Cour suprême. C'est clair qu'elle a le privilège de pouvoir choisir si elle se représente ou pas. Sachant pas non plus quand est-ce que les élections auront-nous des élections partielles, justement, ou une élection générale, mais ça alimente la réflexion forcément de Mme Sinclair-Desgagné, qui donc prend un peu son souffle après justement cette cause-là devant la Cour suprême, mais qui devra donner une décision, ce qui va alimenter les choses, d'autant plus qu'on le voit effectivement avec, le commentaire est fait avec raison, Mme Tatiana Auguste qui est très sur le terrain, il y a un appui de Mark Carney qui semble vouloir s'assurer de garder cette circonscription-là, soit dans le cadre d'élections partielles pour devenir majoritaire, ou éventuellement dans le cadre d'élections générales, donc garder la main sur Terrebonne. Donc ça fait de la pression sur le Bloc québécois, et pour les autres formations politiques, outre le Parti libéral et le Bloc québécois, ça devient beaucoup plus secondaire. Ils ne sont pas vraiment, au moment où on se parle en tout cas, ils ne sont pas vraiment dans la course pour Terrebonne.
Voilà, c'est Mathieu Bélanger, notre analyste politique avec qui Pierre Jubinville s'est entretenu un peu plus tôt. Là, chose certaine, c'est que selon les projections de sondage, on peut clairement voir là, que les libéraux là, s'avancent vers une confortable avance sur la scène fédérale là, au niveau de la majorité. Il est 16h14. Petit mot de circulation pour vous parler de la 40 Est. C'est vraiment pas facile cet après-midi. Le 40 Est à la hauteur de Benjamin Moreau. Sur le pont Benjamin Moreau, on parle d'un camion en panne. C'est un poids lourd dans la voie de droite. Remorqueuse sur place, là, mais ça occasionne quand même un bon bouchon là, depuis Montréal, là, carrément depuis boulevard du Tricentenaire, là, où ça commence à être passablement dense et lent. Prenez votre mal en patience. Là, on va le dégager, ce poids lourd-là. Dans un moment, Claude Lavallée, présidente de la FIC Lanaudière, il y aurait encore du temps supplémentaire obligatoire dans le réseau de la santé.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Émilie de l'Énergie, dépanneur RMRI, Marché Saint-Émilie, dépanneur du Centre, Family Prix Perron et La France. À Saint-Zénon, dépanneur Rondeau. À Saint-Michel-des-Saints, dépanneur Ultramar. Dépanneur Proxy Extra. Garage S. Hébert. Pharmacie Jean-François La France. Uniprix Santé Ali Gariani. À Saint-Côme, dépanneur RMRI. Marché Tradition. À Saint-Alphonse-Rodriguez, Marché Express et Métro Famille Blanchard. Et à Sainte-Marceline-de-Kildare, dépanneur Sainte-Marceline. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Vu chez Super C, une photographe qui flash sur la viande puis les fruits et légumes au meilleur rapport qualité-prix. C'est pas compliqué. Leur objectif, c'est d'offrir des super bons prix sans compromis sur la qualité. Hey, c'est super, Super C. Détails et conditions au superc.ca.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
C'est le moment de célébrer en grand à la cabane à sucre Alcide Parent. Pour lancer la saison du temps des sucres, une soirée exceptionnelle vous attend le 28 février avec le groupe festif Les Campagnards. Formule soupe et spectacle, 60 $. Spectacle seulement, 37 $. Un bon repas, une ambiance chaleureuse et un spectacle entraînant pour une soirée mémorable. Réservez dès maintenant au 450-756-2878 sur la page Facebook et aussi possible sur le site Web. Réservez votre place dès maintenant. On vous attend en grand nombre à la cabane à sucre Alcide Parent.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant de la toute nouvelle Nissan Leaf S Plus 2026 en location 48 mois à partir de seulement 460 $ plus taxes par mois, sans aucun comptant initial. Avec sa grande autonomie et son allure à la fois chic et sportive, elle saura vous charmer. N'attendez plus. Passez en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour faire un essai routier. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous. CFNG.
Lanaudière PM. Santé.
Ouais, avec le temps, on serait tenté de croire que le temps supplémentaire obligatoire a disparu du réseau de la santé, mais c'est pas tout à fait le cas dans plusieurs régions. On a recours au temps supplémentaire obligatoire et la pression est forte sur le personnel. Pierre Jubainville qui en discute avec Claude Lavallée, la présidente de la FIC Lanaudière.
Madame Lavallée, le recours au temps supplémentaire obligatoire varie d'une région à l'autre, selon une étude récente. Dans Lanaudière, ça se passe comment?
Pour le moment, dans Lanaudière, depuis janvier 2026, je peux pas dire un TSO, c'est un TSO de trop. Comment ça fonctionne? Là, je dirais qu'il y en a peut-être une quarantaine là, depuis janvier 2026. On marche plus sur des plans de contingente. Alors, ce qui fait en sorte que, vu que l'employeur applique énormément de ces plans-là, ben c'est sûr que les TSO, à ce moment-là, sont vraiment diminués. Ou aussi, souvent, les coordos vont offrir « Est-ce que tu me resterais ce soir? Puis je vais te donner congé dans 2 jours. » Fait que là, ben là, ça devient un temps supplémentaire régulier. Puis le salarié a le congé dans 2 jours. Mais qu'est-ce qui arrive dans 2 jours? Ben là, on recommence le même pattern. « Est-ce que tu resterais ce soir? Moi, te donner congé dans un autre 2 jours. » Tu sais, fait que l'employeur joue beaucoup sur ce volet-là pour ne pas créer de temps supplémentaire obligatoire. Mais comme je vous dis, les plans de contingente, c'est mur à mur.
Donc, la situation est identique aussi dans les deux hôpitaux?
Je vous dirais oui, mais au niveau des CHSLD, qu'on le voit énormément, les plans de contingence. Là. Si je regarde rapidement Saint-Antoine-de-Padoue, on a 2 infirmières, jour, soir, nuit, pour environ 114 patients. Et il y a des infirmières auxiliaires, bien entendu, il y a des préposés, mais ça reste que ça l'amène une grosse, grosse surcharge de travail. Là, au niveau des CHSLD, il y en a énormément de plans de contingence. Puis je vous dirais que c'est pratiquement rendu la structure standard, les plans de contingence, dans plusieurs centres d'activité, autant au nord qu'au sud.
Donc, le personnel subit toujours la pression pour effectuer des quarts de travail.
Oui. Comme je vous dis, c'est qu'ils travaillent à moins de personnes. C'est vu que le plan de contingente, bien, à place d'être 5, à soir, on est 4. Fait que ça l'amène une grosse surcharge de travail, une fatigue émotionnelle, une fatigue qui est constante tout le temps. Puis c'est un plan de contingence, c'est censé d'être une situation imprévisible, c'est censé d'être quelque chose qui est temporaire, des mesures exceptionnelles, mais c'est toujours, on travaille là-dedans. On est toujours en plan de contingence. Fait que oui, ça diminue le temps supplémentaire obligatoire, malgré qu'il y en a eu une quarantaine à peu près là depuis. Puis quand je dis 40, c'est 40 qui ont été dénoncés, parce que ça arrive qu'il y en a qui ne sont pas dénoncés au niveau des temps supplémentaires obligatoires.
Et est-ce qu'on peut attribuer cette situation, je crois que ma question est évidente, là, à un manque de personnel criant?
Manque d'infirmières, manque d'infirmières auxiliaires, manque même de préposés aux bénéficiaires. Parce que, on est une équipe avec différents types d'emplois. Alors oui, du moins qu'il manque un type d'emploi, si on n'est pas capable de remplacer, on en remplace par un autre, puis on est toujours dans la même routine de manque de personnel.
Et c'est comme ça tous les jours?
Oui, je vous dirais tout dépendant. Là, je peux pas dire que c'est comme ça dans tous les jours, dans tout le même centre d'activité, mais oui, au quotidien, dans le CIS de la Naudière, il y a du plan de contingence, il y a du temps supplémentaire régulier qui peut être un peu contourné, là, comme je vous dis, que ça devrait être un temps supplémentaire obligatoire, mais bon, je vais te donner congé. Oui, c'est régulier et on roule toujours dans ça.
La FIC, en tant que syndicat, est-ce que vous avez les moyens de faire entendre raison à la direction ou si...
On essaie beaucoup de parler parce que, bon, tu sais, quand on parle de ratio, des fois, ça peut faire peur parce que on se comprend quand on parle de ratio, on parle d'ajout de personnel. Mais voilà quelques années, il y avait eu des projets ratio qui avaient été faits dans certains secteurs. Dans la Naudière, on en avait eu un, je pense, au niveau du CA, en HSLD. Il y en avait eu un peu partout au niveau là du Québec et ça avait été fructueux. Ça avait démontré que le fait d'avoir plus de gens, ben ça l'amène que les gens sont plus performants au travail, ça l'amène que les soins sont de meilleure qualité. Fait que le plan ratio, c'est pas quelque chose qu'on peut arriver puis de mettre en place du jour au lendemain. C'est quelque chose qui peut prendre certains temps, certaines années même. Mais il faut avoir la volonté d'aller vers ça. Et pour le moment, autant au CIS de la Naudière que je pense au niveau du gouvernement, je vois pas que la volonté d'instaurer des ratios pour une meilleure qualité de soins veut être mise de l'avant par le gouvernement qui est là présentement. Parce qu'il y a certaines, dans le bout de Vancouver, en Alberta, dans ces coins-là, en Australie, quelques endroits aux États-Unis, il y en a des ratios. Et quand on se compare, ben c'est sûr que au niveau de la qualité des soins est totalement différente. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire rapidement. C'est quelque chose qu'il faut instaurer tranquillement et avoir de la volonté de le faire et d'atteindre l'objectif. Et non faire toujours du aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, c'est une planification long terme. Et des fois, c'est ça qu'on trouve peut-être qu'on met pas de l'avant.
Voilà, c'était Claude Lavallée, la présidente de la FIC Lanaudière, que Pierre Jubainville a eu l'occasion d'interviewer un petit peu plus tôt. On va retrouver Pierre dans les prochaines minutes avec un bulletin complet d'informations à CFNJ. Ailleurs dans l'actualité, il y a 9 individus qui ont été condamnés à payer des amendes totalisant plus de 1,7 million de dollars en lien avec la contrebande de tabac. Et ça a retenu mon attention parce qu'on a saisi de la cigarette et pas à peu près. Revenu Québec indique que 5 contrevenants ont également été condamnés à purger des peines d'emprisonnement et ces personnes-là ont vendu, livré ou ont eu en leur possession du tabac dont le paquet n'était pas identifié conformément à la loi concernant l'impôt sur le tabac. Vous savez, la petite étiquette, là. Un homme du Nouveau-Brunswick a notamment été intercepté, écoutez ça, par la SQ, avec 2 600 000 cigarettes de contrebande dans sa remorque. Il y a un commerçant de Laval qui a également écopé de plus de 7 mois de prison et d'amende totalisant le plus d'un demi-million de dollars. Il y a des militants pro-armes à feu qui doivent manifester samedi devant le Parlement à Québec pour dénoncer le programme fédéral de rachat d'armes et l'interdiction des armes d'assaut. La Coalition canadienne pour le droit des armes organise cet événement-là. Sa présidente au Québec, c'est une femme, oui, Sophie Bélan demande au gouvernement de concentrer leurs efforts sur la sécurité et les services en santé mentale plutôt que de brimer les droits des propriétaires d'armes. Et elle affirme aussi que le rassemblement était prévu là, bien avant la tuerie de Colombie-Britannique.
Le rassemblement est publicisé depuis le 22 janvier. Ce n'est pas en lien avec la tragédie là, de la Colombie-Britannique. Sachez que tous les propriétaires d'armes, comme tout le monde, on est très touchés, profondément touchés et affectés. C'est justement un malheureux exemple là, d'un manque au niveau gouvernemental.
Et puis finalement, comme la semaine dernière, chez nous dans la Naudière, il y a aujourd'hui des dizaines d'agriculteurs et de citoyens qui ont manifesté à Mirabel et qui estiment là, que le futur train à grande vitesse représente une menace directe à l'intégrité du territoire agricole et à l'avenir des fermes. Ils craignent également à être expropriés. Philippe Archambault est vice-président aux communications d'Alto, qui est le maître d'œuvre du projet qui a voulu rassurer la population de la région.
Ça va être de discuter avec les propriétaires ultimement pour s'entendre sur l'acquisition des terrains. Mais tout au long du processus, notre objectif, c'est de minimiser les impacts, augmenter les bénéfices pour l'ensemble du Canada aussi, et surtout d'avoir des discussions directes, honnêtes, transparentes avec les propriétaires quand on aura l'information au fur et à mesure que le projet va avancer.
Bon, voilà, il est 16h26.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Bon, on a toujours un problème là sur la 40 Est, secteur Repentigny. En fait, ça vient de se terminer. On avait un camion poids lourd en panne sur Benjamin Moreau, voie de droite. Il a été déplacé. C'est terminé depuis 2 minutes. Mais ça demeure très lourd, là, 40 Est métropolitaine à partir de Montréal, là, je vous dirais, du boulevard du Tricentenaire. C'est passablement lent et ce, jusqu'à la 640. Passé à 640, on reprend de la vitesse, là. Benjamin Moreau, ça va quand même assez bien actuellement, ça a été dégagé. Repentigny 40 Est, sans problème, oui, ça va quand même assez bien. Pont-le-Gardeur, facile d'approche autant par Sherbrooke que par Notre-Dame, la 25 Nord. Un peu dense à la jonction avec la 440, là, sinon du côté de l'Île-Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, ça va très bien. Pont Sophie-Masson, un petit peu nombreux à l'approche, sinon la traversée de la rivière des Mêles-Îles est facile. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. Direction ouest, on circule sans problème en direction ouest. C'est dense depuis un peu après la montée du mais et ce, jusqu'à la 40, tout ça en raison là, du problème qu'on a eu un peu plus tôt sur Benjamin Moreau. Les nouvelles dans un instant.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 22 février. Gagne 400$ au jeu de la ligne des hauts. José Roberge de Sorel-Tracy, carte achetée chez Liquidation Gartin. Gagne 1333,33 à la carte pleine. Mathieu Désy de Saint-Ligory, carte achetée au dépanneur des Rapides. Muriel Sylvestre de Saint-Cuthbert, qui s'est procuré sa carte gagnante au dépanneur Proxy Arnois de Saint-Thomas. Et Joanne Houd de Mandeville, carte procurée au métro Emery de Saint-Damien. Il remporte 300$ au jeu de la carte pleine de la deuxième chance grâce à 2 cartes pleines. Stéphane Saint-Pierre de Chute-Saint-Philippe, des cartes achetées au dépanneur RMRI de Saint-Côme. Et 150$ sont remportés à ce même jeu de la deuxième chance par Daniel Mas de Louisville grâce à une carte achetée à la tabagie Grand-Père et Normand Fafard de Notre-Dame-des-Prairies qui s'est procuré sa carte gagnante au dépanneur F1 de Berthierville. Tous les dimanches matins, 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5 000$ à gagner avec les 3 jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8$ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ, section Super Radio Bingo. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
C'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Chez Super C, une photographe qui flash sur la viande puis les fruits et légumes au meilleur rapport qualité-prix. C'est pas compliqué. Leur objectif, c'est d'offrir des super bons prix sans compromis sur la qualité. Hey, c'est super, Super C. Détails et conditions au superc.ca.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
L'actualité en ce mardi 24 février en manchette. Paul Saint-Pierre Plamondon tiendra son référendum au cours d'un premier mandat péquiste. Deux nouvelles écoles au centre scolaire des Samars et guerre en Ukraine qui rentre dans sa cinquième année. Oui, Pierre Jubinville, tout d'abord, le Parti québécois qui semble faire des pirouettes avec son option souverainiste.
Oui, et on commence à reprocher à Paul Saint-Pierre Plamondon de reculer sur la tenue de son référendum dans un premier mandat. On sait qu'hier, le PQ a fait élire sa candidate dans Chicoutimi, haut la main d'ailleurs, avec plus de 45% des voix. Le chef péquiste a reconnu quand même que les électeurs ont exprimé une crainte face à cette possibilité. Et on écoute Louis Lacroix.
Avant de se lancer dans l'exercice référendaire, Paul Saint-Pierre Plamondon veut faire comme René Lévesque en 1976.
On peut et on doit parler d'une volonté d'avoir un vrai gouvernement crédible.
Ce qui fait dire au chef conservateur Éric Duhaime...
Hier, il a commencé à reculer sans vraiment le dire.
Le libéral Charles Milliard y voit un changement de position chez le chef péquiste.
M. Plamondon, hier, a débuté ce que j'appellerais peut-être une pirouette politique.
Paul Saint-Pierre Plamondon dit plutôt être à l'écoute des gens qui craignent l'administration Trump.
Dans 2, 3, 4 ans, on ne sait pas où seront rendu les États-Unis après des élections.
Il affirme qu'il tiendra sa promesse, mais de façon responsable.
Il y a une fenêtre de 4 ans. Le choix du moment dans cette fenêtre-là va être en fonction d'un jugement qu'on va exercer de manière responsable.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Et certains sont tentés, Pierre, de déclarer le PQ grand gagnant du prochain scrutin.
Oui, il y a quand même une tangente pour les prochaines élections. Le sondeur Jean-Marc Léger estime qu'avec une première et une deuxième place, le PQ et les conservateurs seront très présents lors de la campagne. Il hésite toutefois à donner le PQ gagnant dès maintenant en raison du caractère latent des électeurs québécois.
Les Québécois tombent en amour avec un politicien à chaque élection. Là, il y aura 2 nouveaux chefs, même 3 nouveaux chefs, si je rajoute Huba Gazal de QS. Fait qu'il y a beaucoup de nouveautés sur la table. Là. Et comme toujours, à chaque élection, on aime quelqu'un. Justin Trudeau l'a vécu, Mark Carney l'a vécu, Jack Layton 2011 l'a vécu. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, là, c'est que les Québécois savent qu'ils ne veulent pas la CAQ.
Et on aura l'occasion d'ailleurs de revenir là-dessus tout à l'heure avec Jacques Plante et aussi sur cette performance, ma foi, fort intéressante des conservateurs dans Chicoutimi.
Absolument.
Et le premier débat de la CAQ aura lieu samedi, Pierre.
Oui, sur YouTube, c'est quand même nouveau. Ce premier débat entre Christine Fréchette et Bernard Drinville se tiendra à 16h. Il sera animé par Dimitri Soudas. Et il y a 2 autres débats qui auront lieu le 21 mars à Québec en matinée. Et un troisième à Laval la semaine suivante, le 28 mars. Dans les 2 cas, ce sera Pierre Jobin, ancien animateur à TVA, qui animera.
Et s'il y avait des élections, au fédéral, Mark Carney pourrait former un gouvernement majoritaire.
Avec 183 députés, on sait que ça prend 172 députés pour former un gouvernement majoritaire. Alors les conservateurs, eux, continuent de reculer avec 128 députés, le Bloc 26. Le NPD 6 et le Parti vert 1. Dans la région, le Bloc québécois domine avec des marges variant entre 2 et 21 %. Et c'est dans Terrebonne où la lutte est la plus serrée avec un score de 39 % pour le Bloc et 37 % pour le PLC. On présume que Mark Carney annoncera la tenue d'élections dans 3 circonscriptions, dont celle de Terrebonne, en fin de semaine.
Et 4 ans déjà que les chars et les troupes russes franchissaient la frontière avec l'Ukraine, semant le désastre.
Oui, 4e année, on compte déjà près de 2 millions de morts, dont 1,2 million du côté russe. 500 milliards de dommages que ça prendrait ce jour-ci pour reconstruire l'Ukraine. Alors, il n'y a aucun accord de paix que l'autre qui semble à portée de main avec la Russie. Alors, on écoute Karl Marchand.
En plus de l'aide financière, Ottawa prévoit également faire don de plus de 400 véhicules blindés à Kiev. Le premier ministre Mark Carney a assuré le soutien inconditionnel du Canada mardi et il a critiqué la Russie qui a lancé les hostilités il y a 4 ans, jour pour jour.
La Russie n'accomplit rien de leurs objectifs militaires
stratégique, l'économie de la Russie devient de plus en plus faible.
La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a pour sa part réitéré que l'aide canadienne viendra tant et aussi longtemps que la guerre ne sera pas terminée.
Et nous sommes ici comme partenaires avec l'Ukraine, dans le court et le moyen terme, et surtout dans le long terme.
Elle a aussi abordé le coût en vie humaine du conflit. La Russie perd environ autant de soldats qu'elle n'en recrute chaque mois. Plus d'un million de militaires russes auraient perdu la vie jusqu'à maintenant. Du côté de l'Ukraine, au moins 140 000 soldats et plus de 15 000 civils ont été tués. Ici Karl Marchand pour Cogeco Nouvelles.
On a beaucoup parlé dans les dernières années, Pierre, de temps supplémentaire obligatoire pour particulièrement les infirmières dans le secteur hospitalier. Il semble que le temps supplémentaire obligatoire là ne soit pas complètement disparu.
Oui, et c'était devenu un fléau. On en a parlé lors des négociations difficiles entre les infirmières et le gouvernement. Et en se penchant sur les statistiques les plus récentes, on constate qu'elles sont loin de représenter la réalité. C'est le cas aussi dans Lanaudière, notamment dans les CHSLD. On écoute Annie Guillemette.
Cogeco Nouvelles a effectué 10 demandes de données. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Mauricie-Centre du Québec se démarquent par un nombre d'heures de TSO en baisse, mais plus élevé qu'ailleurs. À l'opposé, il n'y a pratiquement aucune heure de TSO au Centre-Sud Île-de-Montréal. Mais derrière les chiffres, il y a les faits. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, chacune des heures est comptabilisée, selon la présidente locale de la FIC, Julie Boivin.
Le syndicat et l'employeur, on a travaillé ensemble pour que chaque TSO apparaisse.
En Mauricie, on explique le TSO par le développement du dossier santé numérique. Sauf que là, et aussi à Montréal, la politique reste selon les syndicats, surtout le non-remplacement. Denis Joubert préside la FIC au Centre-Sud Île-de-Montréal.
C'est une donnée qui est non comptabilisée. La problématique, c'est de ne pas remplacer.
Pour son homologue en Mauricie, Patricia Mayotte, comme les ratios sont absents des méthodes, ce sont les patients qui en paient le prix.
Des fois, on voit une infirmière pour 150 patients dans un CHSLD.
Annie Guillemette, pour Cogeco Nouvelles.
Et on sait, Pierre, la population lanaudoise est grandissante et qui dit accroissement de population dit nouvelles écoles.
Oui, deux nouvelles écoles, une sur la rue Saint-Pierre-Sud à Joliette, un projet qu'a déjà annoncé le gouvernement il y a 3 ans, qui avait été mis en pause à cause de l'argent. Mm-hmm. Alors là, le conseil de ville a donné son aval hier soir à la signature d'une entente de partenariat avec le Centre des services scolaires des Samars. Le projet sera réalisé en raison de l'obligation qui est faite aux villes en vertu de la loi 40 de céder des terrains vacants ou acquis aux autorités scolaires pour des projets d'agrandissement. Ce projet-là est évalué à 40 millions. Il y en a un autre à Saint-Charles-Borromée qui permettra d'offrir aux élèves un environnement plus moderne. Cette fois-ci, c'est une école primaire de 27 classes qui sera située à l'angle du boulevard L'Assomption et de la rue André-Hénault.
Éducation maintenant, faut faciliter l'accès aux études supérieures.
Oui, le nord de Lanaudière réclame lui aussi des efforts soient consentis pour que les jeunes du territoire aient accès plus facilement aux études supérieures. La préfète de la MRC de Matawinie, Isabelle Perrault, affirme cependant qu'il y a un travail à réaliser en amont pour garder les plus jeunes à l'école.
C'est sûr que la réussite éducative au secondaire est préoccupante, donc avant même de penser à l'université, faut s'assurer que de plus en plus de jeunes terminent leur secondaire 5 dans les temps aussi, parce que finir un secondaire 5 sur 7, 8, 10 ans, ben des fois ça compromet aussi les études supérieures. L'autre chose, c'est tous les programmes techniques là du Cégep aussi qui pourraient être développés en Matawinie.
Bon, on va terminer sur une note positive, Pierre. Baisse du taux de criminalité dans Lanaudière.
Oui, des infractions au code criminel depuis 2006, mais avec quand même une légère augmentation entre les années 2022 et 2023. Ce sont des chiffres de l'Institut de la statistique du Québec. On a enregistré en 2006 5456 infractions criminelles contre 2656 en 2023. Quand même une baisse intéressante. Et depuis 2014, les infractions contre la personne connaissent quand même une croissance.
Merci Pierre Jubinville. Il est 16h40.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
Lanaudière PM. Éducation.
On en parlait dans les dernières minutes avec Pierre Jubinville, le nord de Lanaudière qui réclame lui aussi sa part du gâteau en matière d'offres de formation collégiale et universitaire. La préfète de la MRC de Matawinie, Isabelle Perrault, est cependant consciente qu'il faut d'abord œuvrer en amont pour que les jeunes aient le goût d'étudier. François Morin lui a parlé.
Alors, Isabelle Perrault, une bonne nouvelle pour la Naudière, l'implantation de ce quartier universitaire. En fait, on va y aller avec les plans de débat. On commence par ça, mais au moins, c'est une étape importante. Et là, ben, une des prochaines étapes, il faudra regarder sur comment on peut faire pour desservir la Matawini, en fait, tout le nord de la région, parce que des jeunes qui voudraient peut-être y aller à l'université, là, actuellement, sont un peu freinés, là.
Ben oui, en fait, ben ils sont un peu freinés, effectivement, parce que la desserte, ben il faut aller soit à Trois-Rivières, soit à Terrebonne maintenant, ou à Montréal, bien entendu, là, ou partout au Québec, dépendamment des programmes. Un peu de desserte à Joliette aussi. Donc, on pense que tu sais, l'arrivée de ce campus-là, c'est quand même un avancement comme projet. Ça c'est une démarche complètement cohérente avec les priorités régionales. Pour ce qui est de la Naudière Nord, donc en Matawini, c'est sûr que la réussite éducative au secondaire est préoccupante. Donc, avant même de penser à l'université, faut s'assurer que de plus en plus de jeunes terminent leur secondaire 5 dans les temps aussi, hein, parce que finir un secondaire 5 sur 7, 8, 10 ans, ben des fois, ça compromet aussi les études supérieures. L'autre chose, c'est tous les programmes techniques là, du Cégep aussi qui pourraient être développés en Matawini. On travaille sur certains projets là-dessus. Là. Il y en a eu un à Cézénon, entre autres, là, qui a avancé. Donc, des programmes de Cégep, des programmes après le secondaire, des DEP, puis des programmes universitaires qui sont très prisés, là, parfois même... comment je pourrais dire ça, tu sais, une mise à jour universitaire ou certains programmes qui mènent à l'obtention d'un diplôme par cumul, ça pourrait être intéressant. Donc, on voit que c'est un avancé, c'est cohérent dans nos priorités régionales. C'est ce qu'on vise, là. La région vise à avoir plus d'accès aux études supérieures pour nos jeunes.
La technologie aidant et le contexte économique n'aidant pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt d'investir dans le béton dans le nord de la région, il va falloir faire les choses à distance.
Faire les choses autrement, avec le même objectif, hein? C'est quelque chose qui est possible. Se déplacer moins souvent vers les campus, faire de la télé-étude, avoir des stages aussi, hein, dans nos régions, avoir des endroits où c'est possible de pratiquer lors de ces études le programme dans lequel on étudie. Donc, on travaille aussi avec les entreprises en Matawini pour s'assurer, entre autres, à Saint-Michel-des-Saints, là, il y a des programmes de type après le secondaire, là, de type excavation, menuiserie, charpenterie, qui sont donnés et qui sont en collaboration avec les entreprises. Fait qu'effectivement, pour s'assurer que nos jeunes puissent étudier dans la région, puissent se trouver de bons emplois dans la région, c'est un travail de longue haleine, mais je pense que c'est un bel avancement. Puis il y en a à tous les niveaux, là, des beaux avancements comme ça.
Je veux revenir un petit peu sur la question, justement, pas nécessairement de la distance, mais du béton et surtout des capacités d'accueil au cégep, notamment à Joliette. On manque d'espace, on est obligé de refuser des étudiants. C'est là où je parle, où il faut effectivement là, faire les choses autrement et à distance.
Bien, tout à fait, ça donne... Si les étudiants vont un cours sur deux, par exemple, au cégep, là, juste ça libère beaucoup de locaux. C'est ça, faire les choses autrement, s'assurer aussi qu'on est en corrélation avec les besoins de la région pour les programmes qu'on donne. Par exemple, on l'a vu depuis presque toujours, là, le cours de soins infirmiers du cégep de Joliette est une pépinière là, pour nos hôpitaux. Donc, c'est vraiment... ce genre de partenariat-là qu'on doit faire, une réflexion, une concertation régionale pour s'assurer que nos jeunes sortent avec de bons diplômes, de bons emplois, mais que les bons emplois sont prêts à les accueillir.
Voilà, c'est François Morin qui s'entretenait avec la préfète de la MRC Matawini, Isabelle Perrault, 16h45. Jacques Plante sera là dans un instant. On fait un retour sur la partielle dans Chicoutimi d'hier.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Youhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah-hey! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 principal à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'Expert Dépanneur. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napole. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra. Et marché IG à Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'expert dépanneur. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imerie, dépanneur Le Rendez-Vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Au concert du dimanche à CFNJ, Joe Dassin.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.
Le concert du dimanche, dimanche matin, 7h à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Salut Claude, ça rappelle des souvenirs ce jour de Saint.
Oui. Tabarouette. Ça n'a pas été une soirée très palpitante pour la partielle dans Chicoutimi hier soir. Aussitôt les premiers chiffres sortis, aussitôt on déclarait la victoire de la candidate péquiste Marie-Carline Laflamme.
Ben, quand on avait regardé au niveau des sondages, il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs, mais le Parti québécois a fait beaucoup de terrain.
Oui.
Et la candidate, c'est quelqu'un quand même qui a un bon bagage. Et
oui.
On voulait ramener d'ailleurs dans le giron du Parti québécois cette circonscription-là. Hein?
Oui.
Et ça s'est fait.
Oui, parce que il faut rappeler que le PQ détenait cette circonscription de Chicoutimi, en fait, de 1973 à 2018.
Exact.
Quand même. Alors, on peut dire que oui, c'est la reprise d'un château fort pour le Parti québécois. Là.
C'était la vague de la CAQ.
Là, oui,
un peu
exactement.
Comme ça s'était passé.
Avec la vague orange.
La vague orange du côté
à l'époque.
D'Ottawa.
Bon, alors donc, très belle performance quand même pour le Parti québécois hier soir dans Chicoutimi. Mais il faut mentionner mentionner, ce qui est digne de mention, c'est la performance du Parti conservateur d'Éric Duhaime avec 26 % des voix pour la candidate Catherine Morissette. Et là, on voit que le Parti conservateur n'est plus à prendre à la légère. C'est plus un parti marginal.
Il y avait eu un sondage qui avait été fait d'ailleurs par le parti pour voir un peu sonder le terrain, qu'est-ce qui se passait. Sondage sondé, ben oui, Jacques. Et on donnait au Parti québécois 43 % et au Parti conservateur 23. Et hier, ils ont terminé à 26. Alors, déjà, pour Éric Duhaime, c'est une méchante bonne surprise.
Oui, tout à fait. Et d'autant plus qu'on n'est pas dans la région de Québec, on n'est pas en Beauce. On sait que les conservateurs de Duhaime sont forts en Beauce, sont forts dans la région de Québec. Mais là, on était dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi, là.
Mais tu sais, quand on regarde, on se dit, bon, OK, le retour au bercail, au Parti québécois, comme c'était la normalité pendant toutes ces années, il était arrivé la CAQ. Mais j'entendais tantôt au bulletin de nouvelles les commentaires de Léger qui disaient des fois le vent tourne vite, dépendamment des personnages.
Oui.
Hein, même si souvent on a dit non, les personnages ça compte pas. Je regrette là, mais dans certains comtés, puis je vais revenir dans Joliette. Véronique Yvon, quand elle était là, essayez pas de la battre. C'est elle qui va décider qui va partir.
Il y
en a des gens comme ça. Et on l'a vécu chez nous. Mais quand je regarde un peu comment ça s'est passé, je me disais, moi je regardais surtout... Oui, la performance du Parti conservateur du Québec, le Parti libéral, comment ils vont tirer leur épingle du jeu, QS et puis le Parti...
La Coalition Avenir Québec.
Bon, la Coalition Avenir Québec, écoute, là, quand on regarde QC125, là...
Mais ils se sont écrasés.
Hein?
Oui, ils s'écrasent partout.
Et là, tu regardes, c'est incroyable. Mais quand on regarde, moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir que Éric Duhaime et sa candidate, qui n'était pas une deux de pique non plus, parce que là, il faut remarquer une chose.
Une ancienne mairesse de Saint-David-de-Falardeau, d'ailleurs,
exactement.
Catherine Morissette.
Qui s'est présentée à la mairie de Saguenay aussi. Ce qu'on remarque, c'est la qualité. Je ne dis pas qu'à la dernière élection, il n'y avait pas de qualité, là, mais c'était un peu n'importe quoi.
Oui, hein? oui. C'est parce qu'il y a eu quelques hurlus-berlus, là, des juliné qui se présentaient. Là,
mais là, il y a
La COVID est passée, on a fait le ménage, j'ai l'impression, chez les conservateurs d'Éric Duhaime, et tous les hurlus Berlu sont partis, sont partis, c'est le cas de le dire, au Parti populaire du Québec.
C'est ça, parce que maintenant, on a demandé à ce qu'il y ait reconnaissance au niveau provincial.
C'est ça. Alors, on associait souvent extrême droite au Parti conservateur du Québec, mais là, on est devant un véritable parti de droite et non d'extrême droite. L'extrême droite est rendue au Parti populaire du Québec, là. Parti populaire du Québec qui a terminé hier avec 0,45
%.
Ouais,
c'est ça.
Alors, ça reste 69 voix seulement, là.
Super mitigé.
Donc, on sent que ce qui handicapait le Parti conservateur du Québec est parti et s'en va avec le Parti populaire du Québec. Ménage est en train de se faire.
Ce avec quoi Duhaime devait jongler quand il y a un scrutin national, c'est qu'à un moment donné, tu essaies d'avoir le plus de candidats possibles dans les 125 circonscriptions. Fait qu'à un moment donné, tu tournes les coins ronds.
C'est ça.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui lève la main.
Et tu présentes des poteaux.
Ben souvent, c'est ça qui arrive.
Oui.
Et là, avec cette dame-là, sa feuille de route, c'est quelqu'un de qualité. Mm-hmm. D'ailleurs, elle l'a confirmé, là, même si elle a perdu, au général qui s'en vient cette année, elle se représente, puis je la comprends.
Oui, tout à fait.
T'sais, elle a mené quand même une bonne lutte. Et là, c'est peut-être le phénomène qui va se passer pour Éric Duhaime. Quand on regarde, il y a peut-être des gens de qualité, des hommes et des femmes, qui vont dire, ben gars, on lève la main, on est intéressé, et il va avoir plus de choix au niveau de ses candidats.
D'ores et déjà, on peut dire, selon le site agrégateur de projection, le QC125, qu'il y a des circonscriptions qui sont acquises pour les conservateurs d'Éric Duhaime, en parlant, entre autres, de Beauce-Sud, Beauce-Nord.
Mais rappelle-toi, Claude, la dernière élection générale, là, Beauce-Sud, je ne sais pas si c'est Beauce-Sud ou Beauce-Nord, mais on a demandé un recomptage.
Oui, c'est Beauce-Sud, je crois, c'était très serré. Là.
Avec Poulain, là, c'est ça.
Oui.
On avait demandé un recomptage parce que les conservateurs étaient là, donc à l'élection qui s'en vient, attachez vos trucs avec de la broche.
Dans ce que je vois, la région de La Beauce et même la région de Mégantic les conservateurs sont en avance. On pourrait donner environ 11. Il y a 11 circonscriptions qui pourraient être prenables pour le Parti conservateur d'Éric Duhaime. C'est pas rien, là, parce que la dernière fois qu'il y a un député conservateur qui a été élu au Québec, le chef, c'était Maurice Duplessis.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu, ouais, il y a eu la transfuge, là, la dame, la plante verte, là, je me souviens pas de son nom.
Mais
là,
elle n'avait pas été élue sur
non,
la bannière conservateur.
Elle était déjà, dans des banquettes.
Elle était à la CAQ.
Elle, elle a traversé la Chambre.
Oui. Donc, ce serait une performance vraiment remarquable pour le Parti conservateur aux prochaines élections et dans de nombreuses circonscriptions québécoises. On peut s'attendre à une lutte entre le Parti québécois et le Parti conservateur.
Qui aurait dit ça, hein, il y a quelques temps. Mm-hmm. Moi, je me suis amusé à aller voir Q625 en termes de sièges, ce qu'on a actuellement, au moment où on se parle, aujourd'hui. Le Parti québécois est dans, la majorité, là, la majorité, le chiffre magique est en 63, on leur donne 73 sièges.
Oui.
Au Parti libéral du Québec, 40. Ça, c'est leur base.
Oui.
Ils peuvent en faire, peut-être, ils peuvent faire certains gains à, à certains endroits. Ce sera à surveiller. Parti conservateur du Québec, on en donne 8. Et toi, tu parles d'une possibilité d'aller jusqu'à 11.
Oui.
Hein? C'est très plausible. Québec solidaire, on en donne 4. Mm-hmm. Et la CAQ, c'est toujours le tibang, là. C'est zéro.
C'est zéro.
C'est zéro. Ça. Alors, la marge du Parti québécois pour garder la majorité, là, elle est de 10 sièges.
C'est pas énorme.
C'est pas énorme. Mm-hmm. Hein? C'est si le PCQ continue à talonner comme ça dans plusieurs circonscriptions,
C'est ça.
Ça peut aller assez vite.
C'est que là, on a la Beauce, on a la région de Québec, et là, ça pourrait aller au-delà de ça, parce que, bon, je vois secteur Côte-Sud. Donc là, on s'en va de plus en plus. Côte-Sud, on donne 30 % au PQ, 27 aux conservateurs. Là, on s'en va vers l'Est, là, de plus en plus,
que ça chauffe.
Ah oui, ça chauffe. Donc, attendez-vous à une belle surprise là avec Éric Duhaime, mais encore faudra-t-il qu'il présente des candidats de qualité. Et
exactement,
là, je crois qu'il doit courir actuellement après les candidats de qualité.
Avec ce qui vient de se passer du côté de Chicoutimi, ça y met de l'argumentaire dans son sac.
Et je garde toujours en tête Bernard Drainville chez les conservateurs d'Éric Duhaime. Je vous le dis, mesdames et messieurs.
Ça, on va le garder en note, là.
Si Bernard Drainville perd la course à la chefferie de la coalition Avenir Québec, je suis convaincu qu'il va se retrouver avec l'équipe Duhaime, à moins que Duhaime n'en veuille pas.
Ben, c'est ça.
Ça se peut.
Moi, c'est ça. Si j'avais Éric Duhaime devant moi, je dirais, pense-y comme fois avant d'aller chercher, parce que lui, il a tous les couleurs, là, tu grattes sa peinture. Et ce qui se passe actuellement, on verra bien si, comme disait un grand des médias, si la tendance se maintient.
Ouais.
On verra bien si ça va se passer. Mais déjà, on commence à faire des réajustements au Parti québécois, notamment en ce qui est question de la question référendaire.
Oui, et là, c'est que...
Il y a une question de délai et de calendrier.
Il faut rappeler que Paul Saint-Pierre Plamondon a changé de stratège.
Exactement. Oui. Ben là, on parle de stratégie. Moi, je dis que c'est plutôt un recul.
Oui, mais c'est que là, Paul Saint-Pierre Plamondon tiendrait un référendum, mais en fin de mandat, premier mandat.
Dans les premiers 4 ans.
Exactement, parce qu'il veut attendre maintenant que Donald Trump s'en aille.
Oui, mais pour moi, là...
La fin du mandat de Trump.
Mais tu vois, moi, il serait ici en studio avec nous, là.
Ouais.
J'ai rien contre lui, là.
Ouais.
Mais il me sortirait ça, puis je dirais, je regrette, Paul, mais je n'achète pas ça. Parce que si Trump continue à faire des dégâts comme il fait actuellement, même quand il va quitter dans 3 ans, celui ou celle qui va le remplacer, là, il va avoir assez de merde à pelleter que la situation va pas se replacer en l'espace de quelques mois, quelques années. Là. Ça va prendre un certain temps à repartir tout ça.
Mais attention, parce que si Paul Saint-Pierre Plamondon reportait au calendre grec son référendum...
Ah, là, il est dans la merde.
Il est dans la merde parce qu'il vient de perdre sa base.
Oui, exactement.
Alors,
exactement. Il faut...
Les purs et durs du Parti québécois, là.
La promesse phare, rappelle-toi, c'est on fait un référendum dans le premier mandat.
Oui.
Un mandat, c'est 4 ans.
Exactement.
Il n'y aura pas le choix.
Non, ça va se faire en fin de mandat, j'ai l'impression.
On va avoir du plaisir à suivre ça.
Oh, tout à fait, Jacques. Ouais. Sa politique, c'est du sport.
C'est violent, des fois.
Merci beaucoup,
salut.
Jacques. Il est 16h59. C'est le temps pour moi de saluer et de remercier les collaborateurs à l'émission aujourd'hui. Pierre Jubainville, François Morin, ainsi que Jacques Plante. Ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. Nicolas Bellemare qui s'amène de l'autre côté de l'actualité de 17h pour vous présenter le 5 à 7 trad. Ben, nous, on sera là de retour demain à 16h pour une autre édition de Lanaudière PM. Portez-vous bien. À demain. Ciao.